n'aime pas quel jeu elle joue.
Quel jeu elle joue, c'est Julien Clerc sur France Bleu Île-de-France.
France Bleu Île-de-France.
Entre nous. Ça se passe comment ?
Et j'ai le plaisir d'accueillir avec vous Nicole Delépine ce soir. Bonsoir.
Bonsoir.
Soyez la bienvenue. Vous êtes venue bien accompagnée de Pascal Olmeta. Bonsoir Pascal.
Eh bien, bonsoir à tout le monde.
Pour tout vous dire, on s'est rencontrés il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, une quinzaine de jours, et on s'est dit qu'il faut absolument qu'on parle de ce que vous faites les uns et les autres.
Eh bien voilà, je pense qu'on va un peu tous ensemble prendre le temps de parler, d'expliquer. Pas de vendre quelque chose, parce qu'on n'est pas là pour
vendre,
à part qu'il y a un livre qu'il faut absolument lire.
La liberté de soigner,
voilà.
Un livre qui fait beaucoup parler d'ailleurs, vous serez d'ailleurs présente Nicole Delépine, à la porte de Versailles pour le salon du
Absolument.
Livre.
Absolument, ouais. J'ai la grande chance de pouvoir aller au salon du livre et de pouvoir, j'espère, signer quelques livres et surtout de pouvoir parler avec des gens qui
bien sûr.
Intéressés par notre combat.
Ce qu'on va évidemment faire davantage ce soir. On salue la présence également dans nos studios de Francesco Bido, bonsoir.
Et bonsoir. Soyez
bienvenue Francesco, là, avec Pascal Olmeta justement, et puis il y a Séverine également, la compagne de Pascal. Vous avez eu la bonne idée il y a quelques années d'une association dont on pense, nous en tout cas, qu'elle a fait beaucoup pour le quotidien évidemment des enfants malades et puis de leurs parents aussi, puisque vous leur proposez d'apporter soutien et espoir. Un sourire, un espoir, c'est d'ailleurs ce nom, il est bien choisi, donné à cette association. Quant à vous, Nicole Delépine, faut-il vous présenter ? Vous dirigez depuis quelques années déjà le service de cancérologie pédiatrique de l'hôpital Avicenne à Bobigny, en région parisienne. Et depuis plus de 20 ans, vous êtes au centre d'une polémique qui sème la pagaille et qui divise la communauté médicale. Depuis plus de 20 ans, vous passez aussi auprès des parents d'enfants malades pour l'ultime recours. Cette polémique, on a besoin d'y voir un peu plus clair, que le travail que vous menez au quotidien, vous allez nous en parler davantage. Pascal, Francesco, pourquoi cette association ? Vous auriez pu faire tout autre chose, Pascal, on se souvient de l'immense gardien de but que vous avez été, vous auriez pu goûter un repos mérité, et puis voilà, quoi.
Non, mais j'y goûte, parce que je touche du bois, mes enfants, j'ai 3 enfants, ils sont en bonne santé, et je dis que c'est pas pour ça que je dois pas m'occuper des autres. Bon, je l'ai toujours fait, tous les clubs que j'ai fait, j'ai toujours été dans les hôpitaux, suivre... et voir sourire et donner un peu plus de sourire à certains enfants, que ça soit aussi aux adultes, mais je le faisais parce que j'y tenais. Tout ça, ben, il faut le ressentir, il faut l'avoir au fond de soi. Et puis depuis peu, bon, j'ai arrêté ma carrière en 98 et c'est vrai que ma plus grande fille, je ne l'ai pas vue tellement grandir, parce qu'avec le football, ben, on pense qu'au football. Et je me suis dit, aujourd'hui, j'en ai 2 autres, une de 4 ans et une de 7 mois. Et de les voir tous les jours, grâce à Dieu, les voir sourire, eh bien, il n'y a rien de plus beau. Et comme je dis à ma petite, j'ai dit, ben, dans pas longtemps, 1er et 2 avril, tu vas venir m'aider, parce qu'il y a des enfants qui en ont besoin. Il y a des parents qui en ont besoin aussi, parce que bon, quand ça arrive, cette catastrophe, c'est vrai qu'on ne sait plus où on est, où aller. Et nous, avec Francesco, ben, on a monté l'association Un Sourire, Un Espoir pour la vie, et si on peut apporter avec le Nicole à nos côtés, si on peut apporter un plus, on est là pour.
Alors, joli sourire, vous allez accrocher au visage des mômes, justement, ils sont une 40aine, je crois, à peu près, hein, que vous allez emmener chez Mickey, quoi, simplement.
Soixante-trois personnes, ouais. Et puis il ne faut pas oublier qu'il y a 12 familles qui partiront aussi de Corse, de Bastia et d'Ajaccio. Il y a pas mardi dernier, avec ma fille et leur copine des BTS, ils ont organisé une soirée spécialement pour l'association, et tous les dons ont été reversés intégralement à 100% à l'association, et ça c'est fantastique, je les remercie.
C'est le but premier.
C'est le but premier. Absolument. Parlez bien près du micro, Francesco.
Ouais. Hors de question que les frais de gestion, bien évidemment, soient imputables aux recettes.
C'est bien de le rappeler, ça.
Ouais. Chaque personne qui intervient, et je rends d'ailleurs hommage à Sophie Muller,
ouais,
qui est aussi une fondatrice un peu de l'association avec Pascal Séverine et moi-même, qui s'occupe un petit peu de gérer tout ce qui est administrativement parlant. c'est pas facile, on va dire entre guillemets. On s'en occupe bien, toujours dans l'ombre, donc je voulais simplement lui rendre un petit hommage.
Nicole Delépine, donc à l'évidence, vous n'êtes pas toute seule, même si à l'évidence aussi, vous êtes malheureusement un peu isolée au sein de la communauté médicale. Ça fait quelques années que ça dure, je le disais, plus de 20 ans, facilement.
Facilement.
Pourquoi ?
Écoutez, d'abord, je profite quand même pour remercier ici en particulier Pascal et Francesco pour ce qu'ils nous donnent et dans l'aide aux enfants. Je peux souligner là le bonheur que c'est pour les enfants de rencontrer des gens comme Pascal quand ils viennent dans le service ou quand ils ont eu le bonheur d'aller en Corse, par exemple, et de passer un week-end au mois de juin. J'ai eu le bonheur de les voir et d'être là. Et c'est vraiment très, très important. Là, il y a des familles qui ont été très frappées par le double malheur d'avoir à la fois un enfant atteint d'un cancer et en plus de devoir affronter la justice pour pouvoir le soigner comme il le souhaitait, et que ces familles puissent se reconstituer un petit peu ensemble dans un week-end comme ils vont leur offrir à Disney, je crois que c'est très important. Donc je remercie aussi au passage toutes les autres associations qui nous aident, parce que depuis 20 ans, si on a résisté, comme vous dites, c'est qu'on n'est quand même pas si tout seul que ça, en particulier
oui.
L'association Amétis qui nous aide depuis 1990. En fait, effectivement, progressivement, bon, le combat s'est durci parce que, si vous voulez, nous, on fait de la médecine classique, si j'ose dire, selon le serment d'Hippocrate, c'est-à-dire qu'on essaie de donner aux patients qu'on a en face de nous le meilleur traitement connu dans l'état actuel de la science. Voilà. Mais les meilleurs traitements connus sont souvent aussi les meilleurs traitements qui peuvent être appliqués vraiment de façon extrêmement précise, extrêmement adaptés, personnalisés à chaque enfant. Et ça s'oppose souvent, effectivement, aux traitements standardisés qui sont donnés par la majorité d'autres centres qui traitent les cancers de l'enfant et qui, pour certains, souhaiteraient que ça soit l'unique façon de soigner. Alors, je précise régulièrement, et en particulier dans ma liberté de soigner, que le combat n'est pas contre quelqu'un, il est contre une société ou autre, il est pour continuer à avoir le droit qui est inscrit dans le Code de santé publique, c'est que chaque patient, chaque famille, en l'occurrence pour les enfants, a le droit, le libre choix de son médecin. On souhaite tout simplement que ce droit soit respecté, et que quand par hasard un enfant, par exemple auquel malheureusement on propose l'amputation dans un service, essaye de trouver un autre service qui va pouvoir peut-être sauver sa jambe, la première réaction des médecins qui avaient proposé cette amputation à tort ou à raison ne soit pas d'appeler le juge, mais de laisser le deuxième choix, le vrai deuxième choix, deuxième avis, et que s'ils choisissent de venir dans notre équipe, ils ne soient pas diabolisés en même temps que nous.
Parce qu'effectivement, certains de vos confrères ont appelé le juge pour enfants en danger. On va en reparler avec
Absolument.
Vous, Nicole Delépine. Vous nous rejoignez, vous qui nous écoutez, à tout moment, 0810 055 056. Détour par l'infotrafic, on va faire court, Lionel Carillo.
Et attention aux accidents, notamment sur le boulevard périphérique en chaussée extérieure. L'accident qui s'est produit à hauteur de la porte d'Ivry, du coup, d'Auteuil jusqu'à la porte d'Orléans, vous mettez 50 minutes. Et puis autre accident, c'est au sud sur la 86 extérieure, à hauteur de la sortie vers Vélizy-Est. On passe au transport en commun, le rail avec Sidonie Ouattrigan.
Il y a toujours une perturbation sur la ligne D du RER. En fait, les trains circulent, mais ils sont sans arrêt entre Goussainville et Gare du Nord. Prévoyez aussi des retards de 10 à 30 minutes sur l'ensemble de la ligne.
Merci l'infotrafic, on vous retrouve dans 10 minutes, 17h15 déjà.
Entre nous, ça se passe comment ?
L'essentiel de l'actualité, c'est tout de suite et c'est avec Léopold Frajnik.
La mobilisation contre le CPE, Jacques Chirac appelle une nouvelle fois au dialogue et à la responsabilité à la veille d'une nouvelle journée de manifestation. Hier, 92 CRS et gendarmes mobiles et 18 manifestants ont été blessés suite aux violents incidents survenus dans la soirée en marge du défilé. Quelques 70 personnes sont toujours en garde à vue. Toujours au sujet du CPE, la solidarité de façade à l'UMP en prend un coup après cette déclaration de Patrick de Bédjan, le député des Hauts-de-Seine, proche de Nicolas Sarkozy. Dominique de Villepin a fait un choix un peu aventureux. Et pendant ce temps-là, étudiants, lycéens et syndicats répètent les slogans. Ils seront dans la rue demain encore, toujours contre le CPE. À Paris, le cortège partira à 14h de Denfert-Rochereau, direction Nation. Slobodan Milosevic n'a probablement pas été empoisonné, c'est ce qu'annonce le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie. Selon les premiers résultats des analyses toxicologiques, le dictateur serbe serait bien mort d'une crise cardiaque. Milosevic sera enterré demain dans sa ville natale de Pozarevac, à 70 km au sud-est de Belgrade. Enfin, le salon du livre a ouvert ses portes aujourd'hui au parc des expositions, porte de Versailles, placé sous le signe de la francophonie cette année. Les organisateurs espèrent une remontée de la fréquentation en baisse l'année dernière de 10%, 165 000 visiteurs s'étaient rendus au Salon du Livre.
Entre entre nous, ça se passe comment?
0810 055 056.
Nos invités ce soir, Pascal Olmeta, Francesco Bido, cofondateur avec, citons-la quand même, hein, Séverine aussi, la compagne de Pascal, de l'association Un Sourire, Un Espoir, qui, tenez, actualité immédiate, se propose d'emmener maintenant plus d'une soixantaine d'enfants, ça va se passer les 1er et 2 avril prochains, chez Mickey pour un peu plus de sourire justement. Ce qui va nous intéresser évidemment, Pascal Francesco, c'est de voir la manière dont vous intervenez aussi auprès des parents de ces mêmes enfants malades, puisque vous proposez justement de leur apporter du soutien et puis des raisons justement de croire en des jours meilleurs, en des lendemains qui chantent plus juste. Notre invitée aussi, elle est avec nous, Nicole Delépine, qui passe, alors là je cite mes confrères du Nouvel Obs, pour le mouton noir de la communauté médicale. Certains de vos confrères n'ont pas de mots assez durs dans un papier paru le 9 mars dernier. Je rappelle que vous dirigez le service de cancérologie pédiatrique de l'hôpital Avicenne à Bobigny. Alors pour que celles et ceux qui nous écoutent comprennent bien ce qui se passe, comment expliquer cette omerta finalement de la communauté médicale? À l'évidence, vous avez du mal à traverser comme tout le monde, vous avez du mal à marcher dans les clous?
J'ai simplement envie de continuer à pouvoir traiter les gens selon ma conscience et donc le serment d'Hippocrate, et donc à pouvoir donner des traitements personnalisés, adaptés. Et c'est vrai que la tendance actuelle de la médecine, en particulier en oncologie pédiatrique, mais malheureusement ça risque d'être aussi le cas en cancérologie adulte, de n'utiliser que des traitements standardisés basés sur ce qu'on appelle l'évidence base médecine, ou plus simplement la médecine fondée sur des preuves, qui malheureusement ne mérite pas son nom, puisque ces preuves ne sont que des analyses de journaux médicaux dans lesquels ils sont publiés uniquement des essais cliniques, c'est-à-dire des traitements très bien standardisés, où en général il y a au moins deux possibilités de traitement, où le traitement est tiré au sort. Et c'est simplement sur les publications de ce type d'essais qu'on dit qu'il faut faire tel ou tel traitement aux patients, c'est ce qui a été démontré efficace, ce qui veut dire que ça balaye clairement tout ce qui a été fait avant la période de ces essais. Or, heureusement, il y a eu gros progrès avant les années 80, et la médecine de l'expérience clinique au lit du malade est très importante. Donc moi je souhaite simplement, et j'ai vraiment écrit ce livre pour essayer que ce soit très...
Ma liberté de soigner,
encore. Soigner, que ça soit très serein, pour dire il faut que les études cliniques, que les études faites au lit du malade, que les études faites comme elles ont toujours été faites avant 1980 ou 1970, puissent coexister avec les essais cliniques. Il ne s'agit pas de remplacer une rigidité par une autre, ou un totalitarisme par un autre. Il faut simplement qu'il y ait une coexistence pacifique et qu'on puisse tous travailler sans que, si on n'accepte pas le dogme de l'essai randomisé, le dogme de l'essai clinique, on soit catalogué fraudeur scientifique, gourou ou je ne sais quoi.
Ce que certains ont dit d'ailleurs.
Ce que certains n'ont pas hésité à dire. Il avait quand même été reconnu qu'il s'agissait de diffamation, même si les gens qui l'avaient fait avaient été exonérés au bénéfice de la bonne foi. C'est une autre affaire. Mais en tout cas, ça avait été reconnu comme une diffamation.
Quels sont vos résultats? Parce que là aussi, ils sont source de débats, de commentaires en tout genre. Certains disent que c'est formidable, d'autres disent que c'est pas possible.
Nos résultats ont le mérite d'être publiés, ce qui n'est pas forcément le cas de toutes les de tous les essais cliniques, malheureusement. Nos résultats sont publiés sur les patients dont on a eu suffisamment de malades en première main, et c'est-à-dire qu'on a vu d'emblée où on a pu faire la biopsie, le diagnostic et le traitement d'emblée. Il est évident que les résultats sur ça concerne essentiellement les tumeurs osseuses. Pour les autres, on n'avait pas eu assez de malades pour pouvoir publier des résultats très importants dans les congrès internationaux. Ces résultats sont reconnus depuis longtemps par la communauté internationale, et ce qui nous a quand même permis effectivement de résister, de subsister, que notre service existe toujours 25 ans après, parce qu'à chaque fois qu'il y a eu des audits de toutes les sortes et des analyses de toutes les sortes, il a été reconnu et par la science publique et ensuite par le ministère qui a fait des enquêtes extrêmement solides, que ces résultats étaient publiés et qu'il n'y avait pas de raison de les mettre en cause.
Les ministres d'ailleurs se sont succédés, aucun ne vous a officiellement désavoué en tout cas. Hein.
Ah bah jamais, sinon on n'aurait jamais pu continuer à éditer. Ça fait quand même, moi je suis titulaire médecin des hôpitaux depuis 1980 à l'essence publique de Paris, et j'étais avant chef de clinique assistant donc depuis 73. Donc vous voyez, c'est l'avantage d'être vieux pour dire qu'on a une ancienneté dans le métier. Et effectivement, les ministres successifs, en tout cas depuis, je vais dire depuis les années 2000, où les parents les avaient quand même vraiment demandé d'intervenir pour que cesse cette diffamation permanente par le bouche à oreille, ont successivement effectivement aidé beaucoup le service à exister. Même si c'était dans des conditions précaires, dans un fond de couloir ou autre, mais enfin on peut recevoir des malades, on pouvait donner, on a les médicaments qu'il faut pour les soigner, donc on a quand même pu continuer à exister.
Ah, c'était vraiment au fond d'un couloir, hein, si vous concerne.
C'est quand même toujours au fond d'un couloir. Et puis avec un nombre de lits extrêmement limité. Mais bon, c'est vrai qu'avec l'accord signé sous M. Philippe d'Ostoblasie, grâce en particulier au combat quand même extrêmement courageux de Mme Rebecca Oriot, qui voulait tout simplement faire hospitaliser son fils dans notre service et qui a découvert un univers absolument ubuesque et tragique, a effectivement, grâce à l'émission Sans aucun doute, pu s'exprimer et attirer l'attention une nouvelle fois du ministère, qui avait été, cette fois, il y avait eu des manifestations avec 1500 personnes devant le ministère quelques années avant pour que la petite Orlane puisse être hospitalisée chez nous. J'ai quand même le bonheur de dire à tout le monde qu'Orlane va bien, ce qui est
ça,
quand même agréable.
Nouvelle.
Voilà, je l'ai vue hier, elle est venue avec ses 6 ans et demi, elle est trop mignonne. Moi, elle m'a mis en 6 ans et 3 mois, elle m'a dit pas une minute.
C'est important, attention. Hein.
Absolument, ouais. Faut pas rigoler à cet âge-là.
Nicole Delépine, on va pas développer outre mesure maintenant hein, sur les enjeux de pouvoir et puis bon, sur des querelles de couloir finalement d'une certaine façon. On aimerait simplement que ça reprenne une plus juste proportion. Ce qui va nous intéresser dans les prochaines minutes, c'est de savoir sur quoi vous travaillez aujourd'hui. Je pense aux parents hein, qui nous écoutent, quelles sont les pistes et puis combien aussi d'enfants malades aujourd'hui en France, dont on sait d'ailleurs que chaque cancer est presque un cas à part, hein. C'est voilà, presque dans le domaine de la maladie orpheline en réalité, hein. Pas si loin.
Pas tout à fait, mais si vous voyez, chaque cancer est effectivement une maladie à part, et même au sein de chaque type de cancer, chaque malade est surtout une personne à part, enfin chaque personne est un individu original et irremplaçable, et effectivement c'est bien pourquoi la médecine personnalisée, je pense que c'est une évidence de bon sens pour tous les gens qui nous écoutent, et qu'il faut être très médecin retranché dans son bunker pour oublier que les traitements standardisés sont forcément statistiquement moins efficaces et en tout cas moins agréables pour les patients, parce que les patients ils ont besoin d'être pris en charge, regardés en tant qu'eux-mêmes, en tant que ce qu'ils sont, ce qu'ils évoluent, ce qu'ils deviennent. Parce qu'on peut être tous pareils au moment d'un début d'un essai randomisé, mais un an six ans après, on ne sera plus tous pareils. Donc de toute façon, il y a des biais dans ces essais qu'il faut prendre en compte. C'est pour ça que quand on nous dit c'est la vérité, il n'y a pas d'autre vérité, oui. Je dis non, c'est pas vrai, il y a une autre vérité. Pour le moins.
Alors quand un enfant vous arrive, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se passe pour lui, pour les parents?
Ben, si vous voulez, ça dépend. Si c'est un enfant qui a, je veux dire, entre guillemets, la chance, c'est un enfant qui est du fin fond de l'Italie, de la Pologne ou de la Serbie, il peut m'arriver encore actuellement en première main, c'est-à-dire qu'on le prenne au début de sa maladie, oui. Puisqu'ils n'ont pas interdiction à venir chez nous. Malheureusement, les petits enfants français, on les voit de plus en plus tard, c'est-à-dire qu'on les voit au moment où ça va mal, et en fonction de ce qui a été fait avant, on peut les aider de façon plus ou moins importante, on peut toujours les aider, on peut toujours les accompagner, même s'il n'y a plus rien à faire, mais il y a toujours quelque chose à faire, ne serait-ce que d'être avec eux, près d'eux, de les accompagner.
On dit que vous y croyez jusqu'au bout, vous, justement.
Oui, bon, tant qu'on n'est pas mort, on est là, hein, je veux dire, et de toute façon, tant qu'on n'est pas mort, on peut avoir une amélioration, on peut avoir des heures de bonheur, enfin, on a des gens qui passent justement éventuellement avec des associations qui nous donnent beaucoup de bonheur, dont celle de Pascal et compagnie.
Et Francesco.
je veux dire, bien sûr que de toute façon, on peut toujours apporter du bonheur aux gens, et puis surtout un regard d'espoir, parce qu'on n'est pas le bon Dieu. Il faut quand même bien qu'on reste à notre place. On n'est que des médecins, on a beaucoup d'armes. On a plus d'armes qu'avant, mais on ne sait pas guérir tous les cancers. Mais on ne sait pas non plus quels cancers vont guérir. Il y a quand même des patients pour lesquels on aurait pu espérer qu'a priori, statistiquement, ils devaient guérir. Et puis c'est ceux-là qui ont résisté. Et puis c'est courant et tout le monde le sait dans le service et puis dans les gens qui nous fréquentent, qu'il y a des patients pour lesquels vraiment on pensait qu'il n'y avait pas grand-chose à faire, qu'on n'allait pas gagner, en tout cas à long terme, qu'on pouvait améliorer, leur donner quelques années de survie en plus, etc., dans de bonnes conditions. Et puis en fait, ils sont là éventuellement en rémission complète quelques années après, voire très longtemps après. Moi, j'ai une chanteuse professionnelle maintenant, je pense souvent à elle parce que. Elle est chanteuse professionnelle, c'est rigolo.
Bon.
Et bon, qui était arrivée quand même en 93, elle devait être désarticulée parce que soi-disant, on ne pouvait pas lui conserver sa jambe. Elle devait mourir dans les 3 mois. Elle avait 13 ans. Et bon, cette fille, elle est maintenant en première émission complète. Elle va bien, elle chante. C'est le bonheur quand même. Bon, il y en aurait-il que 10 comme ça? Mais il y en a beaucoup plus que 10. Bon, mais ça ne veut pas dire qu'on sauve tout le monde, loin de là. Hein. Et surtout, s'ils arrivent tard, qu'ils ont eu des traitements lourds avant, des greffes de moelle avant, qui souvent rendent très très difficile tout traitement ultérieur, on ne va pas forcément les sauver, mais on peut toujours les aider. Notre rôle, ce n'est pas de choisir qui on va traiter, on ne va pas traiter que ceux qui vont guérir. On traite tout le monde.
Nicole Delépine, Pascal Olmeta et Francesco Bido sont aujourd'hui nos invités. On n'est pas fâchés de vous avoir fait venir, on avait besoin de cet éclairage, et ce n'est pas fini. Quelques rendez-vous France Bleu de France avant de retrouver l'infotrafic.
Vous aimez les pièces uniques, les séries limitées, les beaux objets, mode, maison, jardin? Venez rencontrer des artisans créateurs exceptionnels à Artisan Passion, du 17 au 20 mars à la Porte de Versailles. Artisan Passion, le salon des artisans d'art et de création.
Le samedi, entre 12h et 13h, vous faites quoi?
L'érotisme, c'est un, disons, un fil rouge qui ouvre des portes multiples.
Susanna Poveda et son invité déjeunent avec vous.
C'est un sujet délicat, un sujet qu'on peut traiter avec goût, intelligence.
Alain Plumet, directeur du musée de l'érotisme.
J'ai même des psys qui m'envoient leur déprimer pour une bouffée d'oxygène à la maison.
France Bleu de France.
On peut dire que le musée de l'érotisme est aphrodisiaque.
À bientôt 17h30, on pense à vous, candidat au week-end, on vous le souhaite heureux, ensoleillé bien évidemment, on va quand même vous guider avec Lionel Carillo.
Et attention tout d'abord à cet accident au sud sur la 86 en chaussée extérieure, un accident qui s'est produit à hauteur de Vélizy-Est, mais pour l'instant, eh bien, cet incident n'en entraîne pas de ralentissement. Autre accident, c'est sur le boulevard périphérique, cette fois à hauteur de la porte d'Ivry et en chaussée extérieure, et eh bien là, en revanche, vous ralentissez de la porte d'Auteuil à la porte d'Orléans. Prévoyez maintenant 50 minutes dans les transports en commun. Là aussi, quelques soucis. On fait tout de suite le point avec vous, Sidonie Wattrigan.
Oui, et d'abord une perturbation sur la ligne D du RER. En fait, les trains circulent, mais ils sont sans arrêt entre Goussainville et Gare du Nord. Prévoyez des retards de 10 à 30 minutes sur l'ensemble de la ligne. Autre difficulté sur le réseau Paris-Saint-Lazare. Les trains des axes Paris-Sèvres, Paris-Rambouillet et Paris-Mantes-la-Jolie ont des retards de 10 à 20 minutes dans les deux sens de circulation.
Merci d'Infotrafic. Dans quelques instants, les infos, le temps pour moi de vous rappeler que Nicole Delépine, qui dirige le service de cancérologie pédiatrique de l'hôpital Avicenne à Bobigny, est notre invité, ainsi que Francesco Bido et Pascal Olmeta, cofondateur avec Séverine, la compagne de Pascal, d'une association dont on va vous reparler d'ailleurs dans les prochaines minutes. Un sourire, un espoir. 17h30 déjà, les infos, c'est avec Camille Chambon. Bonsoir.
Bonjour à tous. Demain pourrait bien être la plus grande journée de mobilisation contre le contrat première embauche depuis le début de la crise. Les syndicats de salariés doivent en effet se joindre au cortège des lycéens et des étudiants. Hier, ils étaient entre 300 et 500 000 jeunes à manifester dans une cinquantaine de villes de France. Une mobilisation qui s'amplifie, des universités toujours bloquées ou en grève. Ce soir, Dominique de Villepin doit recevoir la conférence des présidents d'université pour faire le point. Le gouvernement qui ne recule pas sur le CPE, mais qui assure vouloir dialoguer. C'est le message qu'a tenu à faire passer une nouvelle fois Jacques Chirac aujourd'hui. Un dialogue pour l'instant dans l'impasse, Bénédicte Tassard.
Ils ne veulent pas y aller. Les syndicats sont invités depuis plusieurs jours à se rendre à la table des négociations pour un débat sur le CPE, mais pour eux, pas question de discuter avant le retrait pur et simple du CPE. Alors pour les amadouer, les membres du gouvernement multiplient les propositions, quitte quelquefois à s'engager un peu trop loin. Jean-Louis Borloo ce matin sur France 2.
Ce qu'a voulu faire le Premier ministre, c'est justement que ça ne soit pas une période d'essai qui n'apporte aucune garantie. Le mot période d'essai était beaucoup moins violent. Vous voyez que le pas motif, il faut justifier évidemment. Alors, est-ce que c'est auprès d'un référent? Écoutez, je doute pas une seconde qu'on trouvera les voies et moyens.
Le ministère de l'Emploi, embarrassé par cette intervention, répliquait juste après que les propos du ministre avaient été mal interprétés. Pas question de motiver le licenciement d'un salarié en CPE. Mais il faut que les partenaires sociaux viennent dialoguer. Même son de cloche à l'Élysée, Jacques Chirac souhaite que le dialogue s'ouvre au plus vite.
Et à noter que certaines manifestations ont dégénéré hier à Nancy, Chalon-sur-Saône, Rennes et à Paris où 71 personnes étaient encore en garde à vue ce matin après les affrontements qui ont opposé forces de l'ordre et casseurs dans le quartier latin. Pas de torture sur des suspects interpellés dans le cadre des attentats de 1995, c'est ce que conclut l'enquête de l'inspection générale de la police nationale. Des conclusions qui contredisent les allégations contenues dans le livre intitulé Place Beauvau, paru le mois dernier, dans lequel 5 policiers affirmaient que des suspects avaient été torturés à l'électricité, humiliés, frappés ou encore privés d'eau et de nourriture pendant des jours. L'entreprise ST Dupont va licencier un tiers de ses effectifs. Le groupe français de luxe, connu notamment pour ses stylos et ses briquets, va supprimer 200 postes, dont 160 en France, principalement sur son site de Faverges en Haute-Savoie. ST Dupont a vu son chiffre d'affaires chuter de manière impressionnante. Les ventes annuelles de briquets de luxe ont été divisées par 2 en 10 ans. Les pertes s'accumulent, les syndicats eux mettent en cause la direction. Ils lui reprochent une mauvaise gestion. Écoutez Daniel Rouy, l'un des représentants du comité d'entreprise.
Les problèmes qu'il y a aujourd'hui, c'est plutôt des problèmes au niveau de la gestion, notamment au niveau des choix commerciaux par des mises en place de boutiques qui nous coûtent énormément cher. Là, on va fermer une boutique à Cannes qui va nous coûter 900 000 euros. des développements de produits qui voient pas le jour. Là, on a fait une étude sur un stylo. Ben, ce projet ne verra pas le jour alors que ça nous a coûté 150 000 euros de développement et d'outillage. Des embauches douteuses au siège social, des rémunérations exorbitantes. On a un directeur de la division du prêt-à-porter qui touche 350 000 euros par an. Et là, véritablement, je crois qu'il y a une équipe en place, une équipe dirigeante qui n'est pas capable de remonter la société. Ça fait des années que ça dure. Là, ça fait 3 années consécutives de pertes. Je crois qu'à un moment donné, on peut véritablement se poser la question.
Israël confirme la présence du virus de la grippe aviaire sur 11 000 dindes retrouvées mortes au sud du pays. En Europe, cette semaine, le Danemark a également fait part d'un cas sur une buse. Le monde entier, ou presque, est touché, en Afrique, en Asie, au Moyen-Orient et en Europe. Et la pandémie animale s'étend, comme l'explique le docteur Jean-Luc Angot, directeur général adjoint de l'OIE, l'Organisation mondiale de la santé animale, interrogé par Hélène Cardin.
On assiste à une véritable panzoocie, c'est-à-dire une pandémie animale, avec une extension de la maladie au départ à partir d'Asie du Sud-Est, puis la Russie, ensuite l'Europe de l'Est, l'Europe de l'Ouest, et également le Moyen-Orient, et maintenant quelques pays africains. Donc on a vraiment une extension extrêmement importante de la maladie, et il y a même des études en Amérique qui disent que vraisemblablement le virus H5N1 atteindra le continent nord-américain dans les prochains mois.
Donc on a des cas en Suède et jusqu'au Nigeria en fait.
Exactement. Et vraisemblablement en Afrique, la situation va empirer puisque ce continent ne dispose pas des infrastructures vétérinaires suffisantes pour faire face à l'extension de la maladie. On a 4 pays qui sont actuellement touchés, hein, le Nigeria, le Niger, le Cameroun et l'Égypte, mais nous aurons vraisemblablement d'autres cas puisque des suspicions sont également reportées dans d'autres pays comme le Burkina Faso et l'Éthiopie.
Mireille Darc a été faite chevalier de la Légion d'honneur aujourd'hui. Également décoré Christian Bourgois, l'éditeur, ou encore le président d'honneur de l'Union nationale des harkis, Mohamed Mentkouda.
Merci Camille. L'info sur France Bleu Île-de-France reviendra dans 10 minutes. Le temps qu'il fait, ça vous intéresse évidemment les uns et les autres? Non, bon d'accord, j'en mets dans mon gilet. Mais il fait beau sur Bobigny, hein? C'est pas Nicole Deléquine qui aime bien le
printemps. C'est quand même plus agréable, de toute façon, voilà, hein, ça donne le moral.
Et le printemps est à nos portes.
Voilà,
on a vu ça au Quartier Latin la nuit dernière.
Ah oui.
Oh, ça refleurit là, je vais vous dire, on en reparlera à 18h. 6 degrés, ceci dit, d'une rive à l'autre.
Entre nous, ça se passe comment?
0810 055 056.
Pour vous qui nous rejoignez, rappelons que nos invités ce soir s'appellent Nicole Delépine, elle dirige le service de cancérologie pédiatrique de l'hôpital Avicenne à Bobigny. Également des nôtres, Francesco Bido et Pascal Olmeta, on est ravis de vous accueillir les uns et les autres. Vous êtes tous les deux cofondateurs avec Sophie et Séverine de l'association Un Sourire, Un Espoir pour la Vie. Et c'est évidemment des enfants malades dont il est question. Effectivement, avec Nicole Delépine, on est revenu plus particulièrement sur les enfants atteints d'un cancer. Et puis les parents, justement, de ces enfants malades. Alors, de ce point de vue-là, au sein de l'association Un Sourire, Un Espoir pour la Vie, vous intervenez de quelle façon? Parce que c'est important. Alors, les parents, évidemment.
Tout à fait. Si vous voulez, il y a à peu près 2 stades, on va dire. Il y a le premier stade qui sont les appels des parents, oui, évidemment, ou des gens très proches des parents, mais qui ne sont peut-être pas appelés, qui font appel généralement à Pascal par le biais du site, ou même à Nicole. Ensuite, on reçoit un peu ces informations-là. Pascal, Nicole nous les communique à Sophie et moi-même, et on décide d'une action. C'est une action qui peut être aussi bien un voyage à Disney, par exemple, comme un soutien, un véhicule, un hébergement ou autre. Et là, Sophie et moi avons plutôt matière à vouloir organiser tout ça, organiser dans le plus bref délai, de telle façon qu'un résultat s'opère. Voilà à peu près comment ça se passe. Mais les demandes, il y en a énormément. Enfin, c'est très frustrant de pouvoir répondre à tout le monde, et toujours très vite, mais quand on fait, c'est vrai que c'est un bonheur immense quand ça fonctionne, quoi.
Pascal?
Tout simplement, c'est que, vous allez sur mon site, même pas un an, 262 000 entrées.
Ouais.
Il n'y a pas de mystère. Je crois que, c'est pas que pour ça. Mais je pense que même Madame Delépine ne le sait même pas. C'est que, comme quoi, la vie, elle est courte et longue en même temps. C'est que moi, je jouais à l'époque au Matra Racing avec M. Lagardère. Quand j'ai eu à aller déjà dans les bâtiments à Bobigny, parce que mon beau-père était atteint du cancer, et c'est là où il en est mort, quoi. Et mort de cancer du poumon, etc. Aussi, cette maladie a emporté ma mère. Il n'y a rien de pire quand un docteur vous dit, c'est peut-être 2 mois, 6 mois, c'est une condamnation, Et là, je crois que les gens, c'est vrai, on ne peut pas comprendre quand il y a...
Quand on l'a pas vécu. Hein.
Quand on ne l'a pas vécu et qu'on apprend des choses comme ça, on se dit, voilà, elle est condamnée à mort, vite, en profitons-en. Non, mais il faut en profiter, même quand on est en bonne santé. C'est pour ça qu'il y a des enfants, et nous, notre combat, c'est l'enfant aussi qui aime rêver. Des familles qui viennent de Corse, il n'y a pas d'enfants, ils ne sont pas tous malades. Il y en a qui ne pourront jamais et n'ont pas encore voyagé, des tout petits. Ils ont un rêve, c'était Euro Disney, mais ils vont venir. Et je crois que leur sourire, eh ben, le mélanger aux autres, il n'y a rien de plus beau.
Oui. École de l'Épine, de ce point de vue-là, alors 260 000 connexions, même si elles ne sont pas toutes forcément, enfin, même si ça n'exprime pas forcément autant de demandes, mais enfin, effectivement, on le sent bien, il y a un besoin aussi. De ce point de vue-là, les parents aujourd'hui, s'agissant des structures publiques, sont écoutés, sont pris en charge de quelle façon ?
Bah, ils sont, enfin, du point de vue de l'administration proprement dite, ils sont pas pris en charge. Enfin, on leur donne, on a obtenu, nous, je me suis toujours battue pour ça, et enfin, tous les gens de mon service aussi, pour qu'on ait au moins un lit accompagnant et qu'on leur interdise jamais de rester auprès de leur enfant. Je crois que, enfin, moi, je vois pas comment on peut interdire à une maman de partir quand son enfant est perfusé, qu'il est en train de vomir et qu'il a mal au ventre. Donc, la seule chose qu'on leur donne, c'est ça. C'est une petite cuisine qu'on a obtenue un petit peu limite parce que c'est pas très autorisé, mais qui permet de faire à manger aux enfants. Un enfant qui est en chimiothérapie, il n'a pas forcément envie de manger d'abord les plats de l'hôpital dans les petits cartons, et puis il n'a pas forcément envie de manger à midi ou à 8 heures. Il peut avoir envie à 3 heures du matin d'un plat de pâtes, et je trouve que c'est tout à fait normal que sa maman puisse y faire. Donc ça, on a des facilités plus ou moins importantes. Alors au-delà de ça, il y a quand même beaucoup d'associations qui viennent un petit peu aider, de bénévoles, au-delà de l'association Amétis, de Thierry le Petit Ange, de l'association Regarde la Vie aussi, qui nous font venir pas mal d'artistes. Oui. Et c'est vrai que le bonheur, il y a Astrid Veillon qui vient souvent, enfin des gens comme ça. Et c'est vrai que le bonheur des enfants quand ils voient des artistes, qui voient quelqu'un qui est de l'autre côté de l'écran, c'est fantastique et ça les remonte, on les voit transformer. Il y a des associations qui viennent aussi pour essayer de réaliser des rêves d'enfants. Pour un certain nombre de gosses, c'est rencontrer des journalistes. J'en ai une qui est venue à France 2, je crois, il n'y a pas très longtemps. Ouais. Qui, voilà, ça peut être rencontrer des poètes, ça peut être rencontrer des écrivains, etc. Donc il y a quand même beaucoup de gens qui essayent de tourner au cours. Bon, le plus gros problème, je dois dire, avec l'association Amétis, qui est une toute petite association, qu'à l'association Amétis, c'est le problème financier. Parce que c'est vrai que souvent, il y a quand même de gros problèmes. En particulier, moi, j'ai des malades qui viennent effectivement de l'étranger, mais aussi de partout en France, et qu'il faut trouver de logements, et que c'est extrêmement difficile. Bon, il y a quelques maisons des parents autour de certains hôpitaux, mais c'est pas l'idéal, parce qu'encore une fois, la maison où on vous fait aller la nuit, c'est pas ça dont les parents ont besoin, mais c'est bien d'être sur place. Bon, c'est les fameuses chambres parents-enfants, mais malheureusement, il n'y en a pas beaucoup dans tous les hôpitaux. Bon, là, dans le nouveau service qu'on construit pour Garches, qui va offrir en octobre 2006, là, c'est-à-dire très bientôt, cette fois-ci, ouais. Voilà, 13 lits, 2 hôpitaux de jour, et qu'on doit au combat du cabinet de M. Dostoblasi et M. Dostoblasi. C'est vrai qu'on va avoir de plus de confort pour les parents, avec une salle à manger pour les parents, etc. Bon, c'est vrai que manifestement, il y a des besoins d'argent. Il y a des tas de familles, brutalement, il faut que la maman arrête son travail. Bon, elle arrête un arrêt de travail de 3 mois, mais après, elle n'a plus de revenus. Ils ne savent pas où se loger à Paris. Il y a ceux qui ont de la famille à Paris, puis il y a ceux qui n'en ont pas. Puis la famille, ça va un temps, mais bon. Donc, il y a de gros problèmes financiers pour ces familles qui, au-delà du cancer, il leur tombe tout un tas de problèmes absolument majeurs. Et c'est vrai que l'apport des associations est tout à fait capital.
Et Francesco Bido le disait en antenne, justement, il y a quelques instants. Alors, effectivement, la présence d'artistes ou de bienfaisants, j'allais dire, comme vous, d'ailleurs, qui leur permettait de réaliser des rêves, Disneyland les premiers 2 avril, c'est bien. Et quand on se réveille, que maman ou papa est au bord du lit, ça change tout.
Ça change tout, mais bien évidemment.
C'est indispensable. Moi, j'imagine pas autrement. Mm. Hein. Et souvent, c'est même pas sur le bon moment. Il y a les grands-parents qui sont à l'hôtel d'à côté parce qu'il faut soutenir maman, qui doit soutenir le petit. Ouais. C'est capital. C'est capital, le lien fort entre les familles. Et c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ont des problèmes d'argent, surtout dans ces conditions.
Je crois que la détresse est communicative. À partir du moment où les parents ne sont pas soutenus, ils sont eux-mêmes en situation de détresse, les enfants le ressentent. À partir du moment où on soutient les parents en amont, ils se sentent déjà beaucoup plus forts, donc le gamin le ressent automatiquement. C'est toujours une histoire de cascade, toujours et toujours. Ouais. Mais les parents, on les oublie toujours, mais enfin leur souffrance à eux, c'est quelque chose quand même. Quand on voit Rebecca, Nicolas en a parlé tout à l'heure, Rebecca Herriot, qui est une femme qui a vécu, c'est monstrueux ce qu'elle a vécu. Il faut quand même avoir énormément de soutien. Bon, ben ça, ça manque peut-être. Ça ouais. manque peut-être. Alors, on parle des solutions qui n'avaient pas trop
je
les moyens.
Je vois un petit peu juste, parce que j'ai dit que l'administration ne donnait pas les moyens. On a quand même, en particulier, par exemple, dans mon service, un assistant social fantastique qui fait vraiment tout ce qu'il peut. Il va chercher à droite, à gauche. Je pense que Francesco a un rapport avec lui. Donc, si vous voyez, il y a des gens à l'intérieur des services qui donnent leur âme pour, et leur temps et leur week-end pour, qui, de temps en temps, vont jusqu'à prendre quelqu'un chez eux, un père de malade qu'on ne sait plus où loger, pour lequel on n'a plus aucun moyen. Il va le prendre. Ah, oui, absolument, ça va jusque-là. Donc, il y a quand même des gens fantastiques qui tournent autour de nos services, mais c'est vrai qu'on manque de moyens financiers, c'est clair.
On ne pourra pas écouter tout le monde ce soir, hein, si vous êtes quelques-uns, nous appelez au 0810 055 056. On va écouter tout de suite peut-être Christian, qui nous appelle de Provence. Preuve que France Bleu de France, on est écouté loin, vive le satellite d'ailleurs. Bonsoir Christian.
Oui, bonsoir monsieur.
Soyez le bienvenu, on vous écoute.
Bonsoir docteur de l'épine, bonsoir Pascal Olmeta.
Bonsoir.
J'aurais une question à poser à Pascal Olmeta.
Oui.
Moi je suis des Bougerons, d'Avignon, là.
Oui.
Et je suis une association Thierry le Petit Ange, dont vous étiez le parrain.
Oui.
Alors la question que je voudrais vous poser, c'est, en ayant créé votre nouvelle association, est-ce que vous continuez toujours à faire le parrainage de l'association?
Ah ben oui, quand on est, on le reste, et je suis toujours aussi le parrain de la petite Emmeline Williams-Beuren, dont l'émission que j'ai fait la ferme pour elle, quoi. Et c'est pas parce que j'ai créé ma propre association avec Francesco et la famille qu'on doit tout oublier les autres. Non, au contraire, on est là aussi pour les autres.
Oui, parce que cette association elle apporte vraiment un soutien au docteur de l'épine et au choix thérapeutique.
Ah ben oui.
C'était la question que je voulais vous poser. Est-ce que vous allez toujours continuer à soutenir
Mais je suis là. Tant que le temps m'est donné, moi et tout ce qui m'entoure, on est là pour Thierry, on est là pour Emmeline, on est là pour un espoir, un sourire pour la vie, et puis toutes les autres. Parce que c'est pas parce qu'on crée une association qu'on doit dire c'est la nôtre et parce qu'on doit parler que de la nôtre. Non, non, on est... à l'écoute de toutes les autres associations.
Ouais, d'accord. Écoutez, je vous remercie.
Merci Christian de nous avoir rejoint. Thierry, c'était le petit prince.
C'était le petit prince. Petit ange après. Mais le
petit
prince,
ange, tout à fait. Oui. Qui nous a quittés à l'âge de 3 ans, d'ailleurs.
Voilà, absolument.
Alors en conclusion, parce qu'on ne va pas conclure d'ailleurs, vous reviendrez, on en reparlera bien évidemment. Rappelons, il y a ce très beau week-end évidemment que vous montez avec une soixantaine de gamins, ça va se passer le 1er et 2 avril à Disneyland Paris. Il y a également à partir du mois de juillet le beach soccer, qui réunit quand même là, on prend des ombrages parce qu'elle avait d'anciennes gloires, et ça met le feu là quand même, on rigole un peu plus quelques championnats en ce moment quand même.
Mais il n'y a pas que des anciennes.
Non, c'est vrai aussi.
Parce que vite la parenthèse, c'est que même hier on était à la remise de la Légion d'honneur. Notre ami Michel Mallory, qui chantera le 14 juillet, stade entrée payante, tout ça reversé à 100% à l'association.
Voilà. Ouais.
Et puis derrière, beaucoup de choses, et Johnny Hallyday qui passera un message, ainsi que tous les autres artistes qui ne pourront pas être présents, pour tous nos gamins.
Grande tournée pour le beach soccer, ça va sur toutes les plages de l'été?
Non, ça va être vraiment sur Abigouille, pendant une semaine pour tous les enfants, et 3 jours pour toutes les vedettes, et comme l'année dernière, Zidane, et etc., tout. À partir du moment où on parle d'enfants, s'ils ont un moment, ils sont là.
Ils sont là, oui. Ouais,
vous avez des chouettes copains.
Mais c'est très bien, parce que c'est pas parce qu'on porte un nom ou parce que des gens sont populaires. Il faut savoir qu'il y en a qui n'ont rien, mais qui veulent donner. Et ça, c'est trop beau.
Et plus d'infos encore sur le site de Pascal, www.pascal-olmeta.com. Quant à vous, Nicole Delépine, on pourra, je pense à celles et ceux qui nous écoutent, encore une fois, on a fait qu'effleurer les choses, pourquoi pas poursuivre cette discussion et partager votre expérience.
Avec grand plaisir, je vous remercie beaucoup de nous avoir
engagement demain
invité.
À la porte de Versailles, dans le cadre du Salon du Livre, vous présentez Ma liberté de soigner. On l'est quand même, finalement, libre de soigner.
Bon, quand les médecins résistent, ils sont libres de leurs prescriptions, donc ils n'ont qu'à résister, c'est tout.
Un grand merci.
Effectivement.
À tous les trois d'avoir été des nôtres, Francesco Lévy,
Pascal
Olmeta, Nicole Delépine. On revient lundi pour toute autre chose. L'infotrafic, c'est tout de suite et c'est avec Lionel Carillo.
Et on commence par le boulevard périphérique où l'accident de la porte d'Ivry a été dégagé, mais le temps d'attente reste encore long sur cette chaussée extérieure puisque le trajet Auteuil-Porte d'Orléans vous prend encore 46 minutes, mais ça devrait s'arranger. Partout ailleurs sur le périphérique, c'est chargé. La seule portion épargnée, c'est au nord entre la porte Maillot et la porte de Bagnolet. Côté extérieur, sur les autoroutes, là aussi un accident. Le trafic est ralenti sur la 86 en chaussée extérieure. L'accident s'est produit à hauteur de Vélizy-Centre.